Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 1er septembre 2025. Je vais dans cette chronique évoquer une question importante, celle de l'arrêt du financement public de l'école privée, à travers deux textes qui ont été présentés pendant le congrès de la Fédération nationale de la libre pensée, qui s'est tenu maintenant il y a une petite quinzaine de jours, dans le Tarn. Mais auparavant, deux sujets. Le premier sujet, ou plus exactement deux points rapides. Le premier point, c'est samedi, 6 septembre, au Stade Rongiras à Périgueux, le Forum des associations. C'est un moment important pour l'ensemble des associations, et en particulier la nôtre, le groupe Fred Zeller. Nous serons présents dans ce Forum des associations et nous vous invitons bien évidemment à venir nous voir, à venir discuter un petit peu avec nous, et on vous présentera l'ensemble des initiatives qui sont prises par le groupe Fred Zeller pour cette fin d'année 2025. Le deuxième point, c'est que j'ai parlé à plusieurs reprises dans différentes chroniques de l'activité que nous avions eue, qui s'était concrétisée le 5 avril dernier par une grande soirée blues en coopération, je vais dire, avec le Doucha Blues et son responsable Jean-Luc Varnier. Et nous avions d'ailleurs, au fil des chroniques, écouté plusieurs morceaux de groupes et chanteurs qui intervenaient dans le festival Doucha Blues. Et cette année, donc, on a encore eu un très très beau festival à Doucha Blues qui s'est clôturé vendredi soir à Doucha. Et j'y étais. Et on a eu droit à un magnifique concert de Nico Wentz Toussaint, qui, avec un premier groupe, Mats and the Messengers, qui ont joué, qui nous ont fait un concert pendant près de 3 heures, qui a été absolument superbe. Et nous allons d'ailleurs, dans cette chronique, écouter au milieu de la chronique et en fin de chronique, deux morceaux donc de Nico Wentz. Je reviens donc maintenant au sujet principal de cette chronique. La question donc de l'arrêt du financement public de l'école privée. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour maintenant depuis plusieurs mois. Et ce sujet, je l'aborde avec deux textes. Un premier texte qui est l'intervention dans le congrès de la Fédération nationale de la libre pensée de Dominique Gousseau, juriste de profession, et qui a rédigé les fameuses propositions de loi qui mettraient en place donc cet arrêt du financement public de l'école privée. Donc voilà ce que dit Dominique Gousseau, de quelle manière il s'est adressé au Congrès. « Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Commission administrative nationale, la CAN, et de la Fédération des Hauts-de-Seine de la Libre-Pensée, donc la fédération dont il est, à laquelle il est rattaché. La Ve République est à bout de souffle. La législation relative au rapport entre l'État et les établissements privés d'enseignement sous contrat, quasiment tous catholiques, l'est également. Le texte adopté le 31 décembre 1959 est, en effet, consubstantiel à la Constitution du 4 octobre 1958, œuvre du même homme. Le rétablissement en 1959 sous une forme modernisée de la loi Fallou de 1850 va de pair avec celui en 1958 du régime bonapartiste issu du coup d'État du 2 décembre 1851, dont le putsch d'Alger du 13 mai 1958 constitue une sorte de réplique. Les critiques adressées à l'enseignement catholique, bénéficiaires d'aides publiques s'élevant à 13 milliards d'euros par an, se multiplient. La Cour des comptes, en juin 2023, et la mission parlementaire d'information animée par Paul Vanier en avril 2024 ont mis en évidence et dénoncé un système hors de contrôle de financement public des établissements catholiques qui nourrit les inégalités sociales et scolaires, alors que la puissance publique est censée, selon le Code de l'éducation, citation, « lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ». Fin de citation. Dans le sillage de la révélation au grand jour de l'ampleur des abus sexuels sur mineurs commis au sein de l'Église romaine, éclatent aussi les scandales éclaboussant les établissements catholiques d'enseignement. Brimades, violences physiques, agressions sexuelles de tous ordres s'y déroulent en toute impunité depuis des lustres. La liste des lieux de supplice s'allonge. Notre-Dame de Bétarame à Pau, Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax, Saint-Pierre de Rélec-Cuéron, Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées. Les conditions du combat en faveur de l'abrogation de la loi Debré ont donc profondément évolué dans les dernières années. La revendication « fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée » doit prendre un contenu pratique immédiat de manière à convaincre le plus grand nombre du bien fondé de l'abrogation de la loi de 1959. C'est pourquoi la Fédération nationale de la libre pensée a pris l'initiative de travailler sur un plan de sortie du système de financement public de l'enseignement privé sous contrat qui a répondu à un mouvement de rassemblement du camp laïque. La FNLP tient toute sa place dans le collectif pour l'école publique laïque, sur lequel elle ne doit pas se bercer pour autant d'illusions. Une partie du collectif estime que l'urgence consiste à bien appliquer la loi Debré avant d'envisager de l'abroger, une position dont la logique paraît pour le moins fragile. Le Comité national d'action laïque, CNAL, et la Ligue de l'enseignement partagent cette opinion ainsi que la Fédération nationale de délégués départementaux de l'éducation nationale, FNDDEN, dont le président, légèrement irascible, n'hésite pas néanmoins à polémiquer publiquement avec le CNAL, auquel son organisation appartient. Il y a effectivement plusieurs demeures dans la maison du père. En quoi consiste ce plan de sortie ? Il commence par l'abrogation de toutes les dispositions du Code de l'éducation issues de la loi Debré, des nombreuses lois anti-laïques l'ayant suivie, des survivances de la loi Fallou du 15 mars 1850 relative à l'enseignement privé du second degré et de la loi du 31 décembre 1984 concernant l'enseignement agricole privé. Cette abrogation ouvre une période de 6 ans pendant laquelle les établissements acceptent une sortie progressive du dispositif de financement public s'ils signent, au cours de la première année, une convention transitoire, à défaut de laquelle, dès la deuxième année, cesse le versement des subventions publiques et rejoignent l'éducation nationale les professeurs ayant choisi de demeurer agents publics. Contrairement à ce que d'aucuns soutiennent, notons que les contrats d'association de la loi Debré ne bénéficient d'aucune protection constitutionnelle et peuvent être unilatéralement dénoncés par la puissance publique pour un motif d'intérêt général, en l'occurrence le rétablissement de l'égalité devant l'instruction à tout moment et sans indemnité. Enfin, il esquisse un programme de construction scolaire permettant d'accueillir 1,5 million d'élèves. Il en détermine le calendrier et des modalités possibles de financement. En effet, il n'est pas question de nationaliser l'enseignement privé sous contrat, une mesure qui serait contraire à la liberté de l'enseignement procédant de celle de conscience et comporterait l'appropriation publique de leurs locaux. En l'état du droit, il y aurait lieu à indemnité. Chers camarades, le combat pour la sortie du système de financement public de l'enseignement catholique conçu par la FNLP s'inscrit dans les conditions concrètes de la situation politique et sociale présente. D'une part, il constitue un levier pour la défense de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, dont nous célébrons le 120e anniversaire en décembre prochain. 13 milliards d'euros versés à l'enseignement catholique marquent une gigantesque violation de son article 2, selon lequel la République ne finance aucun culte. D'autre part, il nourrit l'appel à l'élection d'une assemblée constituante souveraine, dans la mesure où l'effondrement de la Ve République entraînera celui de la loi Debré et réciproquement. Je vous remercie. Et donc, ce texte était celui de Dominique Gousseau, qui a été donc adressé aux congressistes lors du congrès de la Fédération nationale de la libre pensée il y a une quinzaine de jours dans le Tarn. Et donc, le deuxième texte que je vous propose revient sur ce même sujet d'une manière plus détaillée. Fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée, enfin sortir de la loi Debré. Et ça commence par une citation de Condorcet. « L'instruction publique est un devoir de la société à l'égard des citoyens. L'inégalité d'instruction est une des principales sources de la tyrannie. » Condorcet dans « Mémoire sur l'instruction publique ». Donc voilà ce qui est dit, et c'est une résolution qui a été adoptée par le Congrès de la libre pensée. Considérant ce qui suit, en France comme dans bien d'autres pays, les régimes autoritaires favorisent l'école catholique, née du coup d'État du 13 mai 1958 à Alger. La Ve République instaure un système politique de type monarchique et plébiscitaire. Celui-ci repose sur la reconnaissance de très larges pouvoirs, y compris de nature dictatoriale en cas de crise, au président de la République, élu au suffrage universel direct depuis la réforme de 1962. Il abaisse le Parlement, dont l'activité législative et de contrôle de l'exécutif est gravement entravée par les puissants instruments juridiques protégeant le gouvernement. Enfin, la justice n'est pas un pouvoir, mais une simple autorité. De même que la loi Falloux du 15 mars 1850 annonce le Second Empire issu du coup d'État du 2 décembre 1851, la loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé entre en vigueur un an après la constitution bonapartiste du 4 octobre 1958. Étroitement imbriquées, l'une et l'autre sont l'œuvre du même homme, Michel Debré, avec l'appui de la SFIO, le Parti socialiste de l'époque, section française de l'Internationale ouvrière, et notamment, pour la première, du socialiste André Bouloche, ministre de l'Éducation nationale, du 8 janvier au 23 décembre 1959. La loi du 31 décembre 1959 permet à l'Église romaine de sauver ses établissements scolaires en perdition à la fin des années 1950. L'enseignement catholique en compte actuellement 7500, qui, liés par un contrat avec l'État, accueillent 2 millions d'élèves. Il perçoit chaque année des collectivités publiques une somme considérable, estimée aujourd'hui à 13 milliards d'euros. En 2024, la part de la contribution prélevée en sa faveur sur le budget de l'État représentait 10,2% du montant des crédits de paiement réservés à l'enseignement scolaire. La même année, celle imposée aux collectivités territoriales atteignait 4,7% de leurs dépenses consolidées. Il conserve pourtant son caractère propre, c'est un terme utilisé donc dans la loi, et échappe à certaines obligations majeures de l'école publique, notamment en matière d'accueil des élèves, de sorte que les inégalités scolaires et sociales s'aggravent au lieu de s'atténuer. Les paroles de Victor Hugo, prononcées le 15 janvier 1850 contre les partisans du projet de loi Falloux, s'adressent par-dessus les décennies à ceux de la loi Debré. Citation, « Je m'adresse donc au parti clérical et je lui dis, cette loi est votre loi. Tenez, franchement, je me défie de vous. Instruire, c'est construire. Je me défie de ce que vous construisez. » La crise des institutions de la Ve République, qui connaît un sérieux approfondissement depuis 2022, entraîne une mise en cause sans précédent du financement public de l'enseignement privé. Dans ces conditions, à l'ordre du jour depuis 1960, la question de l'abrogation des dispositions issues de la loi du 31 décembre 1959 se pose en termes nouveaux. Il appartient à la libre pensée d'y répondre au regard du principe de liberté de conscience duquel découle celui de la liberté de l'enseignement. Comme nous sommes au milieu à peu près de cette chronique, je vous propose donc d'écouter le premier choix musical de Nico Wentz Toussaint, « Give me back the key ».
I know time has come, years been passing by, honey, since you caught my eye, so give me back the key. Now the free poor world in me, I done loved you, and I know you don't love me, but that is not enough, you see. So give me back the key, just a free poor world in me. I can't find sleep, nor make it through the day. I see your face in each and every way. I hear your voice in the back of my mind. After your loss, there ain't no love I can find. So here I come, just to say hello. Then I will have to go. But give me back the key to free poor worried me. Like groom and spouse, we made it on our own. But joy don't last, now it's way down in the past. You left me one morning, didn't say where you were gone. So honey, here I stand in the rain, with my heart, woman in my hand.
begging you to give me back the key to free poor worried me. Let me go free, let me go.
Voilà, nous venons donc d'écouter un premier choix musical, Nico Owens, qui jouait donc vendredi dernier à Doucha. Là, nous avons écouté un enregistrement avec une formation en quartet, puisque nous n'avons pas pour l'instant à disposition les enregistrements de ce qu'il a fait vendredi à Doucha. Alors, je reprends donc la lecture de ce texte donc, sur la sortie du financement public de l'école privée, et j'en arrive au paragraphe « Liberté de conscience et de l'enseignement ». C'est un paragraphe tout à fait important. Qui surtout revient sur un certain nombre de choses qui pourraient nous être reprochées. Et de manière tout à fait fausse, on va le voir. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 érige la liberté de conscience en principe fondamental. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Fin de citation. Sous sa forme organisée, la libre pensée a contribué de façon éminente à faire reconnaître dans le droit positif cette disposition donc de la déclaration, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État affirme que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Fin de citation. Et elle poursuit même un peu plus loin. À cette fin, elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La liberté de conscience a pour corollaire celle de l'enseignement. Celle-ci n'a de réel contenu que s'il existe un puissant système d'instruction publique obligatoire, gratuit et laïque, qui, selon la belle formule du libre penseur Jean Zay, doit, citation, « rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas ». Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris en 1958, impose à l'État une obligation majeure de résultat en la matière. Il prévoit que, citation, « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Fin de citation. Sauf à porter atteinte à la liberté de conscience. La puissance publique ne saurait donc distraire au profit de l'enseignement privé, qui obéit à des impératifs étrangers à l'intérêt général, une partie des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission scolaire, qui requiert de puissants moyens issus de l'impôt consenti par les citoyens. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, le système d'instruction publique gratuite, obligatoire et laïque, n'est pas par nature un frein bureaucratique aux innovations pédagogiques que peuvent expérimenter ces établissements dès lors que sont respectés les programmes et les diplômes nationaux, ainsi que les règles de gestion de leur personnel. Ainsi, de 1880 à 1894, alors que la République adoptait les grandes lois scolaires, le libre-penseur Paul Robin, inspecteur de la République, adoptait les grandes lois scolaires. Pardon, l'inspecteur de l'enseignement primaire, donc Paul Robin, mis en œuvre à l'orphelinat départemental de Saint-Puy dans l'Oise les principes de l'éducation intégrale appliqués plus tard par Sébastien Faure et Francisco Ferrer. De même, le mouvement de l'école moderne de Célestin et Élise Freinet s'est déployé au sein de l'école publique où il existe encore. Au regard de la liberté de l'enseignement, seule l'existence d'établissements privés d'instruction financés sur fonds uniquement privés paraît donc légitime dans une république laïque. Les cultes peuvent entretenir, à leurs frais et ou à ceux des parents qui choisissent d'y inscrire leurs enfants, des écoles à orientation confessionnelle des premiers et second degrés. D'autres initiatives privées peuvent, dans les mêmes conditions, poursuivre des expériences pédagogiques singulières. Dans tous les cas, parce que la nation protège la jeunesse, l'État doit seulement vérifier que ses élèves reçoivent dans ses établissements privés une instruction minimum et ne font l'objet d'aucun sévice. Crise de la Ve République et contestation des financements publics de l'enseignement privé sous contrat. Depuis 1959, soutenue par des forces politiques consubstantielles ou ralliées au bonapartisme, la Ve République a traversé et surmonté de nombreuses crises politiques et sociales. Journée des barricades à Alger en 1960, putsch des généraux de 1961, suivi d'une mise en œuvre de l'article 16 du 23 avril au 29 septembre, grève des mineurs de 1963, grève générale de mai et juin 1968, départ du général de Gaulle à la suite du rejet des réformes de la régionalisation et du Sénat le 27 avril 1969, alternance de 1981, cohabitation de 1986 à 1988, de 1993 à 1995 et de 1997 à 2002, crise sociale de novembre et décembre 1995. Afin de s'adapter, les deux principaux soutiens de la Ve République ont opéré une mue importante de manière à protéger les institutions. En 1974, après avoir liquidé la SFIO 3 ans plus tôt, le Parti socialiste a ouvert grande ses portes aux chrétiens. En 2002 est intervenue l'unification dans une seule formation des décombres du gaullisme et des chapelles démocrates chrétiennes. Cette capacité de résilience, puisée dans les institutions à la fois souples et fondamentalement autoritaires, mais affaiblie en réalité par l'introduction du quinquennat, a disparu et ouvert une période de grande instabilité en 2017. Dans un contexte de montée de l'extrême droite, les piliers du régime, fragilisés par une défiance croissante des citoyens, se sont affaissés, ouvrant une large brèche dans laquelle s'est engouffé l'actuel président de la République, élu sans véritable assise. Le président socialiste sortant n'a pu se représenter à l'élection présidentielle. Le candidat de la droite embourbé dans une affaire d'emploi fictif n'a pu accéder au second tour du scrutin. En 2022, à la suite notamment du puissant mouvement des Gilets jaunes, la crise politique est devenue institutionnelle. Si le locataire du palais de l'Élysée a été reconduit dans ses fonctions face à la candidate d'extrême droite, aucune majorité décisive ne s'est dégagée à l'Assemblée nationale. Les réformes des régimes de retraite, qui a soulevé de puissantes manifestations d'hostilité dans tout le pays, a été adoptée à la suite d'une motion de censure repoussée de 9 voix seulement. À la suite de l'échec cuisant des partisans du président de la République au scrutin européen de 2024, les élections législatives anticipées, convoquées à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, ont confirmé la tripartition des forces politiques. Le président de la République a aggravé la situation en refusant de nommer un Premier ministre issu de la coalition ayant obtenu la majorité relative, le Nouveau Front populaire. Dans ces conditions, la contestation récente et officielle de l'application des dispositions du Code de l'éducation issues de la loi du 31 décembre 1959 s'inscrit implicitement, mais nécessairement, dans le processus de crise aggravée des institutions de la Ve République. En 2023, la Cour des comptes a rendu public un rapport mettant en évidence les conséquences gravement inéquitables du financement public de l'enseignement privé sous contrat et les défaillances du contrôle de l'utilisation des fonds alloués par l'État et les collectivités territoriales aux établissements catholiques. En 2024, la mission parlementaire d'information a dégagé des conclusions analogues. Outre l'absence de surveillance de son application, ce dispositif nourrit les inégalités sociales et scolaires mesurées par l'indice de position sociale, l'IPS. En 2021, 55,4% des élèves des établissements catholiques étaient issus de familles favorisées ou très favorisées, contre 32,3% seulement dans l'enseignement public. Au surplus, dans les faits, il repose non pas sur l'exécution des contrats eux-mêmes, mais sur une procédure dépourvue de base légale, impliquant les collectivités publiques et le secrétariat général et les directions diocésaines de l'enseignement catholique. De surcroît, les événements conjoncturels ont jeté une lumière crue sur les critiques venues de ces institutions. D'une part, en janvier 2024, à peine nommé et visiblement animé d'un sentiment d'hostilité envers l'école de la République, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Mme Amélie Oudéa-Castéra, a publiquement fait l'éloge de l'enseignement privé en vantant les mérites de l'établissement catholique de prestige du 6e arrondissement de Paris, où elle a inscrit ses enfants, le collège-lycée Stanislas. D'autre part, à partir de février 2024, 200 anciens élèves de l'établissement scolaire du sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans lequel ont étudié les enfants du Premier ministre et maire de Pau, François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation nationale et ex-président du département, ont déposé plainte aux fins de poursuite des auteurs des violences physiques et sexuelles qu'ils y ont subies dans leur jeunesse. À la faveur de ce scandale, d'autres affaires du même type ont mis en évidence le caractère systémique des dérives de l'enseignement catholique. Bref. Dans le contexte de crise institutionnelle que traverse la Ve République, la conjonction de la mise en évidence des mécanismes profondément inégalitaires du financement public de l'enseignement privé et le développement des pratiques pénalement répréhensibles ayant cours dans certains établissements catholiques modifie profondément les conditions de l'action conduite par la libre pensée en vue de l'abrogation des dispositions du Code de l'éducation issues de la loi de Bray. Les nouvelles modalités d'action de la libre pensée en vue de l'abrogation de la loi de Bray. En premier lieu, compte tenu des changements intervenus depuis 2022, un collectif pour l'école publique auquel la Fédération nationale de la libre pensée participe activement a vu le jour. Ces forces, qui composent un large éventail, affirment leur volonté d'abroger la loi Debré selon des rythmes et des modalités variés. Toutes ont rappelé leur attachement au serment de Vincennes du 19 juin 1960. Citation. « De manifester en toutes circonstances et en tout lieu notre irréductible opposition à cette loi contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation, d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. » Fin de citation du serment de Vincennes. Beaucoup d'entre elles l'avaient néanmoins oublié. Elles s'en prévalent désormais, au moins formellement, en raison du nouveau contexte politique. Ce cadre unitaire inédit depuis 30 ans, selon les termes du communiqué du collectif du 9 octobre 2024, constitue en lui-même une avancée que la libre pensée ne saurait ignorer. En deuxième lieu, compte tenu de l'état de crise institutionnelle dans laquelle se trouve la Ve République et de ce mouvement de regroupement de forces en défense de l'école publique qui en procède indirectement, la FNLP ne peut se borner à exiger sans autre précision l'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques, sauf à nourrir, implicitement mais nécessairement, le point de vue de ceux qui y voient un appel inaudible et préconisent seulement d'améliorer le financement public de l'enseignement catholique, tel Pierre Ouzoulias, vice-président du Sénat. Par conséquent, la FNLP a fait le choix d'élaborer un plan de sortie pour mener une campagne de fond dans le cadre du collectif, comme en dehors de celui-ci, sur la base de l'accord qui unit les forces qui le composent, c'est le meilleur moyen de combattre celles qui, en son sein, agissent dans les faits en faveur d'une application stricte des dispositions du Code de l'éducation issu de la loi Debré. En troisième lieu, le plan de sortie du financement public de l'enseignement privé sous contrat conçu par la FNLP a pour point de départ l'abrogation des textes actuellement en vigueur, légués par les lois modifiées Falloux pour le second degré, Astier pour l'enseignement technique, Debré et Rocard pour l'enseignement agricole. Dans la mesure où l'insertion de 2 millions d'élèves et de 140 000 professeurs dans l'enseignement public ne s'improvise pas, de même que ne pouvait être immédiatement réalisée la laïcisation totale de l'instruction primaire dans les années 1880, ce plan consiste 1. À résilier tous les contrats en cours liant l'État aux établissements privés à la date de l'abrogation et de leur permettre de choisir, durant la première année suivant celle-ci, d'accepter une convention type transitoire de 6 ans, organisant la réduction progressive des financements publics de la deuxième à la sixième année. Il offre aussi la possibilité aux enseignants du privé de demeurer agents publics et de bénéficier d'une titularisation. Il prévoit des mesures d'accompagnement pour les autres personnels de droit privé. Il comporte un plan exceptionnel de financement de la construction de nouveaux bâtiments scolaires. En effet, il n'est pas question de nationaliser l'enseignement privé et ses locaux, mesure qui serait contraire au principe de la liberté de l'enseignement et donnerait des arguments à ceux qui évoquent le spectre de l'indemnisation pour faire obstacle à la perspective de l'abrogation. Dans ces conditions, le Congrès de la FNLP décide, premièrement, de poursuivre sa participation dans le collectif pour l'école publique. Deuxièmement, d'amplifier la campagne de représentation du plan de sortie du financement public de l'enseignement privé en multipliant les conférences ayant cet objet. Troisièmement, de faire systématiquement le lien dans ces réunions publiques entre la crise institutionnelle de la Ve République justifiant l'appel à l'élection d'une assemblée constituante et la nécessité d'abroger la loi Debré qui nourrit les inégalités scolaires et sociales ainsi que le caractère systémique des violences et abus sexuels sur mineurs dans certains établissements catholiques. Quatrièmement, de procéder à toute enquête locale utile concernant les établissements catholiques. Cinquièmement, enfin, de présenter le plan de sortie aux élus nationaux comme locaux dans la perspective des prochaines élections municipales, législatives et présidentielles ainsi qu'aux candidats à ces différents scrutins. J'en arrête là de manière très rapide puisque nous arrivons au terme de cette chronique et vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. N'oubliez pas samedi de venir nous rencontrer au Forum des associations de Périgueux.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
et le tien, ton glaive bleu.